Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque jeudi à 17h30 sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Épisode 11, les anges. Après avoir étudié la création, ce que signifie pour Dieu créer, et puis après avoir abordé le difficile problème de l'existence du mal, nous rentrons dans l'étude des créatures. Et avant d'étudier la création du monde, de l'univers, qui pose, comme vous l'imaginez, un certain nombre de questions, eh bien, il nous faut parler des anges. Alors, ce sont ici, dans l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique, deux questions assez brèves. C'est d'ailleurs assez étonnant que ce thème ne soit pas davantage développé, mais je pense qu'il est utile d'en faire un épisode complet, parce que la question des anges est évidemment une question très intéressante et qui est très instructive pour notre foi. Alors, à la question 59, le catéchisme pose cette question: que Dieu a-t-il créé? Quel est l'objet de la création? Et la réponse est la suivante. La Sainte Écriture dit, c'est une citation du premier verset du premier chapitre de la Genèse, c'est-à-dire les premiers mots de la Bible, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Dans sa profession de foi, l'Église proclame que Dieu est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles, de tous les êtres spirituels et matériels, c'est-à-dire les anges et le monde visible, et tout particulièrement l'homme. Alors voilà l'interprétation classique, en effet, de ce passage. Lorsque l'Écriture nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », eh bien, par l'expression « le ciel », il ne s'agit pas du ciel avec les nuages et la pluie, mais il s'agit de toutes les créatures invisibles, c'est-à-dire les créatures spirituelles. Ce que l'on peut déjà noter, et je reprends cette idée en particulier à saint Thomas d'Aquin, c'est que Dieu crée selon tous les degrés possibles d'être. Je m'explique. Il y a dans les êtres matériels que nous voyons, que nous connaissons de façon sensible, évidemment les choses matérielles inanimées, telles que les cailloux, les montagnes, l'eau, les océans, toutes ces réalités matérielles qui n'ont pas la vie. Selon d'ailleurs une myriade de degrés possibles, et on est toujours étonné d'ailleurs, c'est l'œuvre des scientifiques, d'étudier la nature et de découvrir, plus la science avance, plus est rendue manifeste la perfection de la création divine. Voilà. Dieu aurait pu par exemple créer un monde en noir et blanc ou avec des degrés de gris. Il a choisi de créer un monde avec des couleurs. Il aurait pu se contenter de quelques réalités, de quelques matières, mais il existe une foule de réalités matérielles, aussi bien solides que gazeuses, que liquides, etc. Donc il est important, il me semble, de savoir méditer lorsque l'on contemple la nature et les beautés des paysages, par exemple, ou encore mieux, un ciel étoilé, de voir là une preuve, un élément en tout cas, un indice de la perfection divine et de la beauté de Dieu. Voilà. Dieu fait des choses belles et bonnes parce qu'il est lui-même la beauté même et la bonté même. Alors, je disais, Dieu a créé tous les degrés d'êtres matériels, et puis parmi ces êtres matériels, il y en a qui ont une caractéristique particulière, à savoir le vivant. La vie est un grand mystère. Si vous avez déjà médité sur cette question, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qui fait qu'un être est vivant? C'est très étonnant parce que le vivant ne peut que se transmettre d'un autre vivant. Il y a cette grande question, est-ce qu'on peut synthétiser à partir des choses matérielles et créer un être vivant ? C'est assez controversé, mais même si c'était possible, et même si un jour la science parvenait à le faire, eh bien la vie est un stade développé de la matière. C'est une configuration de la matière tellement subtile et tellement fragile d'ailleurs, puisque le caractère du vivant, c'est qu'il peut mourir, et que les philosophes se posent la question, qu'est-ce qui fait qu'une chose est vivante ? Alors Aristote, le premier, répondra que ce qui fait un être vivant, ce qui définit un être vivant, c'est qu'il a la source de son mouvement en lui-même. Il est la cause de son propre mouvement. On voit bien que une machine, eh bien, a besoin d'être alimentée par un moteur. Évidemment, le moteur peut être à l'intérieur de la machine, mais néanmoins, il faut que ce moteur soit alimenté, soit mis en route. Alors que le vivant, eh bien, c'est ce qui a la capacité par soi-même de se donner son propre mouvement. C'est ce qui est la cause immanente de son propre mouvement. Et qui n'a pas une cause extérieure, donc qui le transcende, mais qui a comme cause de son mouvement sa propre réalité. Alors, dans le vivant, il y a évidemment, là encore, tous les degrés possibles du vivant, depuis qu'on distingue, d'ailleurs depuis Aristote, en trois grandes catégories, vous le savez, c'est-à-dire d'abord les plantes, les végétaux, ensuite les animaux, et puis enfin les hommes. Alors, on peut dire que tous ces degrés du vivant s'harmonisent et se hiérarchisent selon la complexité de leur capacité de vie et selon les propriétés qui sont les leurs. Évidemment, un végétal a la capacité de se reproduire, a la capacité de croître, a la capacité d'entretenir avec le monde extérieur un rapport, un ensemble de relations, c'est-à-dire de prendre de l'extérieur ce dont il a besoin pour se nourrir ou pour vivre, et de rejeter une espèce d'échange entre le vivant et le monde extérieur. Parmi les plantes, il y a les choses les plus simples, comme il y a les choses aussi il y a un certain nombre de plantes qui sont très complexes et qui sont d'autant plus magnifiques dans leur épanouissement. Et puis ensuite, suit cet ordre du vivant végétal, le vivant animal, auquel s'ajoute un certain nombre de propriétés, en particulier la capacité de se déplacer par soi-même. C'est comme ça qu'on définit un animal, celui qui est capable de se déplacer. Alors là encore, il y a une foule d'animaux. Ça va de l'huître, qui est simplement capable de se laisser porter par le courant, mais de s'accrocher à un rocher. Il y a peut-être d'ailleurs des animaux plus simples que ça. Et puis ça va jusqu'aux animaux les plus parfaits, qui ont les capacités de rapport avec le monde, de connaissance, de sensibilité, même d'imagination. Les plus développés. Les animaux sont capables de rêver, d'imaginer, de mettre en place des plans d'action pour quand le lynx veut attraper la gazelle. Eh bien, je ne sais pas si les lynx mangent des gazelles, mais vous me pardonnerez vous comprendrez l'explication, l'exemple. Eh bien, il met en œuvre tout un tas de capacités. On peut même dire un plan d'action. Qui est évidemment de l'ordre de l'instinct, mais qui peut être aussi le résultat d'un calcul, évidemment, mais un calcul matériel, quelle est la meilleure trajectoire pour attraper sa proie, quelle est la meilleure vitesse à laquelle il doit courir, etc. Et d'ailleurs, on remarque que dans l'ordre animal, les animaux ont des capacités souvent bien plus développées que les hommes eux-mêmes. Alors, et puis, troisième catégorie du vivant, et ça, il me semble que c'est une question tout à fait fondamentale. Nous reviendrons sur la question de l'homme, la création de l'homme et la définition de l'homme. Mais ce qui fait que l'homme est un degré supplémentaire du vivant par rapport aux animaux, c'est sa capacité intellectuelle, c'est-à-dire la capacité de connaître l'universel. Non pas des êtres particuliers, mais sa capacité de penser des concepts, c'est-à-dire des idées universelles, c'est-à-dire sont réalisés par plusieurs éléments. C'est-à-dire que le lynx dont je parlais tout à l'heure, ou le lion qui va manger le petit lapin. Là encore, je ne suis pas sûr que des lions mangent des lapins, mais ce n'est pas grave. Il sait manger un lapin, il sait l'attaquer, il sait s'en occuper. Mais néanmoins, il n'a pas l'idée du lapin, il n'a pas le concept. Il sait le reconnaître, évidemment, mais il n'est pas capable de penser de façon universelle sur le mode donc de l'idée ou du concept, donc de donner une définition à la chose. Alors, bon, c'est une question, je répète, nous reviendrons dessus, parce que la question de l'âme humaine et de la particularité de l'âme humaine, avec son aspect intellectuel et donc sa liberté, est tout à fait importante à démontrer et à tenir. C'est d'ailleurs l'une des choses qui est devenue le plus difficile à penser. Beaucoup de d'hommes de notre temps n'acceptent plus l'idée que les hommes aient une âme spirituelle, intellectuelle, donc spirituelle, et donc immortelle. Et beaucoup disent les animaux aussi ont une âme parce qu'ils ont une sensibilité. Mais ce qui définit, évidemment, les animaux ont une sensibilité. Tout le monde a fait l'expérience de l'amitié avec un chien, avec un chat, même d'une certaine complicité que l'on peut avoir. Et même des sentiments que les animaux peuvent avoir. Le chien qui reste fidèle à son maître, qui se réjouit de son retour, etc. C'est très, très intéressant et très beau à voir. Néanmoins, ce qui va caractériser l'homme, ce n'est pas cette capacité de sentiment qui est commune, qu'il a en commun avec les animaux, mais c'est le fait d'avoir une âme spirituelle, comme séparé de la matière, est capable de penser d'universel et donc de faire des choix volontaires. Alors, pourquoi est-ce que je parle de toute cette hiérarchie du vivant ? Parce que, précisément, l'homme a cette capacité intellectuelle dans un corps. Nous sommes corps et âme. Mais ce que nous enseigne la foi ici, et c'est un enseignement de la foi qui ne peut pas être une conclusion de la raison. La foi nous enseigne donc que Dieu a aussi créé une foule d'êtres purement spirituels, donc intelligents et libres, qui n'ont pas de corps. Et vous voyez que ce sont là, évidemment, les anges dont nous allons parler maintenant. Alors, deux remarques. D'abord, c'est l'occasion de répondre à une question que l'on me pose souvent et que beaucoup se posent. Est-ce que, dans la foi, quand on est chrétien, est-ce qu'on peut croire qu'il existe des extraterrestres ? Alors, moi, quand on me pose cette question, je réponds toujours, vous savez, par la foi, justement, on croit qu'il existe une foule d'êtres intelligents et libres, précisément, qu'on appelle des anges. Donc, le chrétien pense qu'en dehors des hommes et de leur intelligence et de leurs projets, de leur plan, etc., il y a d'autres êtres qui, oui, interviennent dans le monde et qui sont aussi intelligents et libres avec leurs plans et leur but et leur façon d'agir. Ces êtres, évidemment, et c'est peut-être là où la réponse aux extraterrestres prend son intérêt, c'est que quand on imagine un extraterrestre, on imagine qu'il a des antennes, qu'il est vert, qu'il est soit très, très fin avec des grands yeux ou avec des grandes oreilles. Évidemment, quand on est chrétien, on pense que les êtres intelligents et libres n'ont pas de corps. N'ont pas de corps, parce que les seuls êtres créés par Dieu qui ont un corps et une intelligence, un corps et une âme, sont les hommes. Et si demain on trouvait des êtres intelligents et libres sur un nouveau continent, imaginons, comme c'est arrivé d'ailleurs au cours de l'histoire, que l'on découvre un nouveau continent avec des êtres intelligents et libres, eh bien il faudrait en déduire évidemment que ce sont des hommes. Deuxième chose, je disais, il y a deux éléments. Deuxième chose, c'est que de la même façon qu'il y a toute une hiérarchie depuis le caillou immobile et stupide, j'allais dire, en tout cas, qui n'est pas capable de se mouvoir, donc il n'est pas un animal et donc encore moins capable de penser, jusqu'à l'être humain avec toute la hiérarchie aussi des intelligences qui existent parmi les êtres humains, eh bien, les anges sont eux aussi hiérarchisés selon leur capacité intellectuelle. Il existe toute une foule de hiérarchies dans cette hiérarchie angélique, depuis l'ange le plus bas qui aurait une intelligence proche de l'intelligence humaine, bon, sans le corps, donc non limité par le corps et par les conditions de la corporéité, jusqu'à l'ange le plus élevé qui aura une intelligence très proche de Dieu et capable de comprendre les choses de façon beaucoup plus divine que les hommes. Et la distinction, si vous voulez, les degrés d'intelligence se mesurent, comme je le disais, à la capacité de penser de façon universelle, c'est-à-dire à la capacité, en gros, de synthèse et de saisir en une idée l'ensemble des participations à cette idée. On peut dire d'une certaine façon que nous autres hommes, lorsqu'on étudie quelque chose, eh bien, c'est tous les étudiants le savent, tous ceux qui ont fait des études le savent, eh bien, ce qui est difficile, on aperçoit qu'il y a une idée qu'il faut que l'on saisisse, que l'on maîtrise, et puis, mais c'est difficile, ça demande du temps, du travail, de nombreux exemples, jusqu'à saisir ce que ce concept inclut en lui-même. Et on peut dire qu'on a compris quelque chose, alors c'est vrai surtout en mathématiques, enfin dans les sciences, mais c'est vrai d'autant plus en philosophie, ou encore plus en philosophie, à force de travail, d'intelligence, de recherche et de pénétration dans l'idée, eh bien on finit par saisir cette idée. Et celui qui est le plus intelligent finalement, c'est celui qui arrive en peu d'idées à comprendre tous les enjeux qui sont inclus dans cette idée comme ses conséquences. Et on se rend bien compte qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'on n'a jamais fini de comprendre le monde, de comprendre les choses qui nous entourent, parce qu'on peut sans cesse élever notre esprit vers ces idées les plus simples. Et donc, les anges, eux, ont un accès comme immédiat, ils n'ont pas besoin d'étudier, ils ont un accès comme immédiat à ces idées, et plus ils sont élevés dans la hiérarchie angélique, plus ils ont accès à des idées simples dans lesquelles sont inclus, comme leurs conséquences, toutes les suites de ces idées, tout ce qu'impliquent ces idées. Alors, entrons dans la question des anges. Question 60, qui sont les anges ? Les anges sont des créatures purement spirituelles, incorporelles, invisibles et immortelles. Ce sont des êtres personnels, doués d'intelligence et de volonté. Alors, je pense que ça synthétise bien ce que j'ai dit jusqu'ici. Ça ajoute évidemment que ce sont étant des créatures purement spirituelles et incorporelles, je l'ai bien précisé, les anges n'ont pas de corps, ils sont invisibles et immortels. Alors, invisibles, c'est sans doute évident, mais puisque les anges agissent dans le monde, eh bien, parfois, ils peuvent agir sur la matière, évidemment. Mais néanmoins, et donc parfois même apparaître. Apparaître, vous savez, toutes les histoires de fantômes, bon, quand ce n'est pas de la pure fantaisie, mais les histoires de dames qui viennent hanter une maison, hanter un lieu, ou solliciter des prières, par exemple. Je pourrais vous raconter une foule d'histoires dans ce sens, mais vous en connaissez sûrement. Eh bien, ce sont finalement des anges, des esprits qui agissent dans le monde. Oui, nous, comme chrétiens, nous croyons qu'il y a des esprits, bons et mauvais, on va y venir, qui agissent dans le monde. Et qui peuvent même agir sur la matière. Parce que, comme on peut le constater dans notre cas, notre intelligence, notre volonté surtout, est capable d'agir sur la matière. Si je décide de me lever et d'arrêter cette émission, si je décide de lancer mon livre à travers la pièce, ce ne serait pas très malin, mais mon intelligence aura une conséquence, aura agi sur la matière. Alors, moi-même, comme être intelligent, tout homme comme être intelligent, eh bien, nous avons la capacité d'agir sur notre propre corps. Je ne peux pas, par ma simple intelligence, mouvoir un objet qui est éloigné de moi. La seule chose que je peux mouvoir, c'est mon propre corps. Les anges, eux, parce qu'ils sont des purs esprits, parce qu'ils n'ont pas de corps, eh bien, peuvent agir sur la matière, indépendamment, évidemment, de leur corps, puisqu'ils sont incorporels. Donc les anges agissent dans le monde. Ce sont des êtres, ajoute le catéchisme comme je viens de le lire, ce sont des êtres personnels, doués d'intelligence et de volonté. Et ça c'est très beau parce que les anges ne sont pas des espèces de machines spirituelles. Les anges sont des personnes parce qu'ils ont encore une fois cette intelligence, cette volonté. Ils font des choix, ils visent le bien ou le mal et donc ils sont des personnes que Dieu connaît, évidemment, que Dieu connaît personnellement, comme il connaît chacun des hommes, dans l'infinité de sa sagesse, mais qui aussi, comme on le verra, c'est ce qu'on appelle l'ange gardien, qui peuvent avoir un rôle personnel et que nous-mêmes, nous pouvons, d'une certaine façon au moins, connaître de façon personnelle. Et comme nous l'enseigne la Sainte Écriture, puisque dans la Bible, eh bien, il y a plusieurs reprises des anges qui interviennent. J'y reviendrai. Donc, contemplant sans cesse Dieu face à face, ils le glorifient, ils le servent et sont ses messagers pour l'accomplissement de la mission de salut de tous les hommes. Voilà le travail, voilà l'activité principale des anges. Ils contemplent Dieu. Et là encore, c'est une grande leçon pour nous, il me semble, parce que ce que cela nous enseigne, c'est que notre caractère intelligent et libre, notre intelligence, ce qui fait notre humanité finalement, ce qui nous distingue des animaux, consiste à connaître et à aimer. L'intelligence est faite pour connaître le vrai. La volonté, la liberté est faite pour agir dans le bien. Eh bien, le but de toute intelligence et de toute volonté, c'est de connaître et d'aimer Dieu. Et c'est le but de la vie de chacun des humains, de la même façon que les anges, eux, alors évidemment, encore une fois, ils ne sont pas limités par le corps, donc ils ne sont pas limités ou ralentis ou fatigués par l'activité intellectuelle, mais leur activité principale consiste à contempler Dieu face à face et à le glorifier. Donc, voilà aussi un enseignement pour nous dans le sens où c'est ce à quoi nous-mêmes comme hommes nous sommes appelés. Mais, le catéchisme ajoute, ils le servent et sont des messagers, sont ces messagers, les messagers de Dieu, pour l'accomplissement de la mission de salut de tous les hommes. Voilà le rôle des hommes, des anges pardon, dans le monde, contempler Dieu pour le glorifier, pour lui rendre gloire, et puis réaliser dans le monde toute l'œuvre que le bon Dieu veut réaliser, en particulier pour le salut des hommes. Donc les anges sont à la fois tournés vers Dieu, mais ils agissent dans le monde. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a une hiérarchie. Les anges les plus élevés, les plus savants, les plus grands, sont les anges qui sont totalement tournés vers Dieu, qui le contemplent dans l'infinité de sa perfection. Les anges inférieurs sont ceux qui sont chargés des basses besognes, chargés d'agir dans le monde, de faire ceci ou cela, de nous éviter tel mal ou de faire du bien, et de nous guider, de guider les hommes. Donc plus l'ange est parfait, plus il est tourné vers Dieu, et ensuite il va communiquer, parce qu'il y a toute une hiérarchie angélique, et chaque ange supérieur communique aux anges inférieurs ce qu'il a contemplé de Dieu, pour que les anges inférieurs réalisent dans le monde ce que Dieu leur demande et ce que Dieu veut pour la réalisation de sa providence, dont nous avons parlé lors du dernier épisode. Alors, comment les anges sont-ils présents à la vie de l'Église? Question 61. L'Église s'unit aux anges pour adorer Dieu. Elle invoque leur assistance et, dans sa liturgie, elle célèbre la mémoire de certains d'entre eux. Alors, voilà, effectivement, puisque le rôle principal des anges est de servir Dieu, d'adorer Dieu, eh bien, la liturgie de l'Église mentionne les anges, même dans le canon de la messe, on demande que nos offrandes soient portées par le Saint-Ange de Dieu. Et puis, tous ces êtres spirituels, c'est en étant unis à eux dans leur adoration du Dieu Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant, que nous pouvons aussi être unis à Dieu lui-même. Et dans la Sainte Écriture, eh bien, il y a un certain nombre d'anges dont nous connaissons l'existence. Il y a par exemple, évidemment, l'archange Gabriel, qui est celui qui vient annoncer à la Sainte Vierge qu'elle serait la mère du Sauveur. Qui est celui qui annonce les choses, les desseins divins. Il y a l'archange Raphaël, qui est celui qui va accompagner le jeune Tobie dans la réalisation, dans le livre de Tobie, que je vous recommande, dans l'Ancien Testament, c'est un livre magnifique. Vous savez, c'est cet homme qui s'appelait Tobie, qui était un grand serviteur de Dieu, très pieux, un juif très pieux, qui respectait la loi divine, et il devient aveugle. Il devient aveugle et donc il envoie son fils, qui s'appelle Tobie aussi, chercher une femme qui lui est destinée. Et en sortant de la maison, il rencontre un jeune homme très beau qui va le suivre, qui va le guider et lui donner des bons conseils pendant tout le chemin. Et puis après maintes péripéties, Tobie revient avec la femme qui lui était promise, Sarah, et ils se marient. Et donc ils sont très heureux et au moment de partir, le jeune homme leur dévoile qui en fait il était l'archange Raphaël envoyé par Dieu pour guider Tobie en remerciement de la piété de son père. Alors, et puis aussi, évidemment, l'ange le plus célèbre, peut-être, c'est Saint-Michel. Saint-Michel, celui qui a chassé le démon. Tous les noms des anges finissent par elle parce que en hébreu, elle, c'est Dieu, tout simplement. Et donc, Saint-Michel, c'est qui est comme Dieu. Quis ut Deus, et parce que c'est celui qui a chassé le démon, je vais y revenir tout de suite, parce que, préalable, Parmi les anges, parce qu'ils sont libres précisément, eh bien certains ont fait le choix de s'opposer à Dieu. En particulier, le plus beau des anges, le porteur de lumière, Lucifer, Luciferum, c'est celui qui porte la lumière, dont on dit que c'était le plus beau des anges, le plus intelligent donc des anges, et qui a eu, comme tous les autres anges, le choix soit de servir Dieu et de lui obéir, soit de se révolter contre Dieu. Et alors, c'est ce qu'on appelle le péché des anges. Donc Lucifer a choisi de se révolter contre Dieu, et à sa suite, les théologiens, les pères de l'Église disent que peut-être un tiers des anges ont quitté la voie du bien pour s'opposer à Dieu et pour passer leur vie, comme ils sont devenus les démons, ils passent leur vie à faire du mal dans le monde, à contrer les plans de Dieu et à chercher à perdre les âmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le péché des anges, c'est un péché de pur orgueil. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir chez les anges, puisqu'ils n'ont pas de corps. Donc c'est un péché purement d'orgueil. Le péché le plus grave étant évidemment le péché intellectuel, le péché purement intellectuel. Et Lucifer, finalement, en quoi il s'oppose à Dieu, c'est qu'il préfère être la cause de son propre malheur plutôt que recevoir son bien de la part de Dieu. Et donc voilà finalement l'essence du péché. Le péché, ça consiste, comme Lucifer et puis comme les hommes par la suite, on y viendra, eh bien ça consiste à ne pas accepter d'obéir à Dieu et de ne pas suivre la voie que Dieu nous a tracée. Alors, dernier mot, il y a dans le catéchisme cette citation de saint Basile le Grand. « Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. » C'est ce qu'on appelle l'ange gardien. Chacun d'entre nous avons un ange qui est particulièrement destiné à nous guider vers notre salut d'abord. Mais ça peut inclure aussi le fait d'éviter les dangers, d'éviter le mal, d'éviter telle ou telle difficulté de notre vie. Alors, prions les anges, ayons ce réflexe de prier notre ange gardien. Alors, il ne s'agit pas de lui donner un nom, il faut simplement l'appeler mon ange gardien. D'être rassuré, d'être confiant, puisque Dieu nous a confié cet être spirituel qui nous connaît, qui nous aime, qui est notre meilleur ami, qui est chaque jour à côté de nous pour nous guider vers le ciel et vers notre destinée éternelle. Comme toujours, prions l'Esprit Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique et surtout n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous. Et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.